Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Radio Foot International sur RFI, comme vous en avez l'habitude, et avec ces soirées Ligue des Champions qui commencent ces semaines-ci, et hier soir était donc la première. Avec des jaunes et noirs flamboyants et des Parisiens décevants, le Borussia Dortmund a remporté le match aller de Ligue des Champions dans une ambiance des grands soirs, emmené par son phénomène norvégien Erling Haaland, double buteur et homme du match. Les Parisiens ont été dominés, parfois dépassés, évoluant dans un schéma tactique qui faisait débat avant même le coup d'envoi. Neymar a la peine, il s'en est pris au club après le match, drôle d'ambiance. Mais le PSG a marqué, le score de 2-1 permet donc tous les espoirs au retour au Parc des Princes. Une défaite pour les champions d'Europe sur la pelouse de leur sacre. Liverpool battu hier soir à Madrid par les Colchoneros, droit devant leur but, qui ont éteint le trio d'attaque des Reds. L'Atlético a un but d'avance pour le retour à Anfield. Et puis nous évoquerons les deux rencontres de la soirée. Tottenham recevra Leipzig et l'Atalanta Bergame accueillera Valence. Avec dans ce studio pour évoquer ces sujets, un ancien joueur chaud comme la braise, Marc Libra, bonjour.
Bonjour Annie, ça va bien?
Et vous?
Oh bah écoutez, ça va, j'ai passé une soirée on va dire, ça va.
Intéressante.
Oui, intéressante, on va en parler d'ailleurs.
Philippe Doucet, bonjour.
Bonjour madame Annie.
Merci de venir faire un tour dans le studio de Radio Foot. Et puis David Lortolari, notre apôtre du foot allemand. Vous avez passé une bonne soirée?
plutôt pas mal parce que Dortmund a fait un bon match et j'imagine qu'on va en parler.
Je crois que ça va commencer par ça d'ailleurs. Radio Foot, c'est parti.
Haaland devant, ça combine un peu mieux avec le déboulé d'Achraf Hakimi, le centre et la frappe, l'ouverture du score pour le Borussia Dortmund, signé Erling Haaland,
la pépite norvégienne.
Le ballon à Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé à 30 mètres des buts de Dortmund, mais que fait-il là? Il doit être dans la surface. Kylian Mbappé, mais il est passé, il est rentré dans cette surface. Le centre, le but, ouais. Le but, l'égalisation parisienne. Kylian Mbappé, le festival pour servir qui? Eh bien Neymar, Paris se remet dans le sens de la marche. Quel but! Erling Haaland qui a le petit fusil, qui est en avance à l'entrée de la surface de réparation. Quel pétard du gauche, plein de Lucas.
Attaque à Kala.
الهدف الثالث من اصل 12 تسجيله بينما فرصه جول
اوه ماجنيفيسنت دو بول
بوس ادو بوس هي سوبرب هي فانتاستيك ce but quelle puissance.
C'est fini, la victoire du Borussia Dortmund et bien sûr le Westfalenstadion qui explose, qui félicite ces joueurs, qui se réjouit de la prestation de ces héros. Succès du Borussia Dortmund, 2-1 ce soir face au PSG. Il porte la signature d'un homme, d'un gamin plutôt, Erling Haaland.
Et oui, sous les yeux de nos envoyés spéciaux à Dortmund, Hugo Moissonnier et Frédéric Suteau, que vous avez sûrement écouté hier soir, eh bien, une star est apparue sur la scène européenne du football. Erling Haaland, 19 ans, un cyborg et un buteur qui a tourmenté la défense à 5 du Paris Saint-Germain. Il a inscrit un doublé et ses stats sont affolantes depuis qu'il est en Allemagne, c'est-à-dire depuis janvier. 19 tirs, 13 cadrés, 11 buts marqués. 39 buts en 29 matchs, toutes compétitions confondues et tout club confondu, puisqu'il était à Salzbourg avant d'arriver à Dortmund. Meilleur buteur de la Ligue des Champions à 7 heures, meilleur joueur hier soir, pris en pleine course. Alors ça, c'est les réseaux sociaux qui s'en délectent depuis que les Italiens ont mesuré ça. Il était à une vitesse impressionnante sur 60 mètres, 6,64. Alors je ne sais pas en combien vous courez vos 60 mètres, mais apparemment c'est impressionnant, c'est pas loin en tout cas des records. Bref, la presse européenne se répand, un géant, un animal, un phénomène. Et je vais vous poser la question, a star is born, Philippe Doucet.
Ah, écoutez, en tout cas, il a indiscutablement quelque chose. Il a une dans sa dégaine, dans sa bouille, dans sa vitesse, son expression. C'est un rentre-dedans incroyable.
Alors, de temps en temps,
il y a des contrôles tibia péroné un peu douteux. Il se lance dans des rushs un peu. Donc, il est encore jeune. Il est encore jeune dans son jeu. Il n'est pas mature comme les Mbappé, par exemple.
Il vient d'une nation qui n'est pas traditionnelle dans le haut du panier européen.
Et puis, il était en Autriche il y a 2 mois. Donc, même si Salzbourg joue très bien au football, malgré tout, il n'était pas confronté au plus haut niveau. Donc, on sent de temps en temps qu'il y a des petites ratures. Mais indiscutablement, il a quelque chose. Il a vraiment quelque chose. Et je pense que l'attaquant Libra va aimer.
Ouais, Marc, j'aime bien ce profil-là. En plus, c'est les profils qui ne sont pas forcément aimés dans le football. Parce que c'est vrai qu'on a coutume de dire, s'il n'est pas très beau, c'est pas très élégant. Mmh. C'est vrai, contrôle un peu loin. Par contre, le cœur qu'il a mis encore hier soir, c'est-à-dire que c'est le véritable détonateur. Quand vous avez un joueur comme ça devant qui fait les premiers efforts, tout le groupe vous suit, ça ne s'arrête jamais. Il les a littéralement détruits. Les trois monstros,
il a fait
là.
Mal aux trois, ouais.
Il les a mis. Ouais. C'est-à-dire que Kimpembe, qui est un garçon très élégant, qui est joli aussi, quoi. Il s'est fait mettre minable, Marquinhos. Il les a détruits. Ça ne s'arrête pas. Et à partir de la 82-83e, on le voit, il baisse les épaules, la tête est basse, il est fatigué. Mais on voit vraiment que depuis, là, il a cherché qu'une chose à, je vais leur rentrer dedans et je vais tout donner, quoi. Je vais jamais rien lâcher. Et le but en est l'exemple parfait où c'est vrai que c'est, en plus, ce que je suis étonné, c'est qu'on n'ait pas calculé la vitesse, parce qu'il frappe vraiment très, très fort.
Ah oui.
Mais c'est, alors on a pris sa vitesse de course sur 60 mètres, mais on l'a vu 2-3 fois. Il est vraiment très impressionnant. Et la question de savoir si une star is born, rappelez-vous, il y a à peu près 3 ans, il y a un joueur qui s'appelait Mbappé au même moment droit à Dortmund.
Au même endroit, il met un doublé, on l'a entendu. Et
on nous avait dit exactement, est-ce que c'est le début? Ouais. Après, je pense que dans la mentalité, l'état d'esprit, ce garçon-là, Hollande, a peut-être un temps d'avance, même s'il est un petit peu plus jeune, il a quand même un temps d'avance, et que lui a calculé déjà en se disant, je vais à Dortmund parce que je sais qu'à Dortmund, ce système de jeu va être efficace pour moi, et ça va aller parce que il y avait quand même pas mal de clubs qui étaient sur lui. Je trouve que c'est très intelligent ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a fait actuellement. Donc bravo, chapeau à lui, et je pense que c'est, on n'a pas fini d'entendre parler de lui, à mon avis.
Alors, David, je ne sais pas comment on dit en allemand Star is born, mais vous l'aviez déjà vu en plus émerger, cette star, vous qui aimez bien le football de ces régions.
Oui, et d'ailleurs, le RB Salzbourg qui joue demain soir contre Francfort risque de pleurer l'absence de Hollande qui est maintenant parti. Deux remarques par rapport à ce qui vient d'être dit. Les Allemands ont apprécié hier, pour compléter la palette dont parlait Marc à l'instant, ont apprécié sa capacité aussi à ne pas s'isoler de ses coéquipiers, c'est-à-dire déjà une sensibilité tactique suffisante pour rester au cœur du groupe, notamment sur les actions défensives. Lorsqu'il fallait récupérer le ballon, il a aussi fait des efforts. C'est peut-être pour ça que Marc a pu repérer, comme nous tous, qu'il était fatigué dans le dernier quart d'heure. Et il y a eu un dessin de presse ce matin qui est paru en Allemagne. On voit Hollande discuter avec Obélix, le personnage bien célèbre de la bande dessinée. Et Obélix lui dit « Parlons franchement, Erling. Toi aussi, tu es tombé dans la potion magique quand tu étais petit. » Parce qu'effectivement, c'est un phénomène aussi en Allemagne. Il est considéré comme, a-t-on dit, un animal depuis le match d'hier.
Alors, je le disais, il a été désigné homme du match à la fin de cette rencontre. Maintenant aussi, l'UEFA désigne des hommes de match. Et cependant, écoutons ses propos. C'est très court, mais c'est très humble à la sortie du terrain.
Je ne suis pas vraiment satisfait. Non, pas vraiment. Je dois encore progresser. Bien sûr, 2 buts, c'est bien, mais je crois que j'aurais pu marquer davantage. On va s'en contenter.
Bon, alors il deviendra peut-être bling bling un jour, mais en tout cas pour l'instant, il a l'air humble et discret. En tout cas, c'est le début de sa carrière, de ce jeune. On lisait une anecdote sur les réseaux sociaux que vous avez peut-être vu aussi, David Lortolari. Son père, son père, on s'en souvient, il joue à Manchester City, on a déjà un peu raconté l'histoire. Il avait été blessé gravement.
Agression à l'époque.
Voilà, une agression totale qui lui avait détruit le genou, il n'a plus pu être footballeur. À la place, dans cette équipe de Manchester City, un certain Claudio Reyna l'avait remplacé, ce papa.
Ah oui.
Et le fils Reyna, eh bien, c'est un copain de jeu désormais de Haaland dans l'équipe de Dortmund. Parce qu'évidemment, si Haaland sera donc l'épouvantail du futur match retour dans 3 semaines, le 11 mars prochain, derrière Haaland, c'est ça qu'on a trouvé très intéressant, il y a toute une série de jeunes talents dans cette équipe. Haaland, donc, on disait à 19 ans, Sancho, l'anglais, comme son nom ne l'indique pas, à 19 ans. Zagadou, le français qui était en défense à 20 ans, et Reyna qui est lui qui vient d'Américain.
Hein. Américain qui rentrait à un quart d'heure de la fin.
Voilà.
Il est encore plus jeune.
Et qu'on a très bien
17
vu.
Ans.
17 ans. Plus, on peut... Alors, on parlait tout à l'heure de Haaland qui a été un des renforts de cette équipe durant le mercato d'hiver. Mais il y avait eu aussi Emre Can qui, lui, est arrivé de la Juventus.
Oui, parce qu'il ne jouait plus avec la Juve.
Voilà, et qui a renforcé, qu'on a vu hier, le rôle qu'il avait avec d'ailleurs en milieu de terrain Axel Witsel. On va l'écouter, Axel Witsel, parce qu'il raconte, l'international belge, que finalement, eh bien, ils ont rendu une copie presque parfaite.
Presque parfaite. C'est dommage pour ce but qu'on prend. C'est un peu dommage, mais bon, au final, on a fait un super match, super bien organisé. Sans le ballon, on a été vraiment bien, bien agressif, dans le bon sens du terme, bien sûr. Sur Neymar, Mbappé, parce que c'est des joueurs qui peuvent faire facilement la différence, donc il fallait pas leur laisser trop d'espace. Et puis aussi, avec le ballon, il fallait jouer. On a super bien joué. On est reparti quelques fois en compte. Je pense que sur l'ensemble du match, on a été beaucoup plus dangereux qu'eux. On leur a pas laissé grand-chose, et c'est presque parfait. Ouais.
Axel Witsel dit donc un match presque parfait. C'est la question que vous vous posiez en arrivant à RFI tout à l'heure, David. Est-ce que c'est le Borussia qui a super bien joué ou est-ce que les Parisiens ont moins bien joué?
Alors, ils ont été courageux sans doute, comme leur entraîneur hier, notamment avec ce coaching, le remplacement d'un attaquant par un autre attaquant. On aurait pu imaginer qu'ils mettent un joueur plus défensif. Bon, ça c'est une parenthèse, mais c'est conforme à la prestation récente de Dortmund. C'est-à-dire qu'on a bien vu que Emre Can était un stabilisateur essentiel au milieu de terrain. Depuis qu'il est arrivé, ça va mieux, notamment 4 jours avant contre Francfort, le 4-0. C'est exactement le même 11 de départ.
Exactement.
Et c'est moi,
on
je
l'avait regardé à la loupe d'ailleurs, hein, ce 11 ce jour-là.
Je veux bien qu'on dise qu'Axel Witsel est un super joueur, mais il est encore meilleur quand il y a Emre Can à côté de lui. Parce que précédemment, avec l'absence du Danois Delaney par exemple...
On a l'impression que tous se bonifient les uns les autres dans cette équipe.
Voilà, et l'équilibre, il est quand même tout récent, trouvé par Favre, parce que les chiffres précédent de Dortmund dans les duels, dans les ballons perdus, dans les passes réussies par l'adversaire dans la surface était catastrophique, parmi les plus mauvais de Bundesliga. J'ai une petite liste là, mais on va pas perdre de temps, c'est l'idée qui compte. Et aujourd'hui, c'est tout récent encore, c'est sans doute encore pas très fiable. Mais on a vu hier que Favre avait trouvé un équilibre entre cette attaque capable de marquer à tous les matchs, 2, 3 ou 4 buts, et une défense enfin un peu moins poreuse. Mats Hummels, d'ailleurs, le
défenseur,
oui, a relevé cela, et pour lui, c'est essentiel, forcément.
Oui. Marc Libra, pour vous aussi, c'était vraiment cette équipe du Borussia était un ton au-dessus, peut-être aussi dans la lignée de ce qu'elle fait ou ce qu'elle sait faire, quand même.
Oui, c'est ce qu'elle sait faire.
C'est pas un débutant en Ligue des Champions, non, et en phase éliminatoire.
Après, il n'y a pas forcément de surprise par rapport à cette équipe-là, puisqu'avant le match, on sait que c'est une équipe qui est capable de marquer beaucoup de buts, de se projeter très vite, puisqu'on l'a vu sur les deux premières actions du Borussia, ce sont des corners du PSG mal gérés, ou heureusement qu'ils jouent mal le coup, autrement ils peuvent marquer rapidement. Donc ça n'a pas été le cas. Après, ce qui est le plus important, c'est que à l'heure de jeu, on voit que Dortmund commence à pêcher un petit peu à l'heure de jeu, et là, ça permet à Paris de gagner 10 ou 15 mètres. Donc jouer un temps plus haut, et ça correspond à ce moment-là au meilleur moment de Paris où ils marquent le but. Et c'est là que Paris doit en profiter. C'est là que Paris doit tuer le match et marquer encore et encore. Alors, il marque un but, ça se passe bien. Et puis, par rapport à ce but, qu'est-ce qui se passe? Paris redescend encore, redescend très bas, parce que quand on voit le deuxième but de Haaland, on voit bien que Silva était sur le reculoir, il recule. C'est dommage. Alors oui, je pense que Dortmund a eu un petit coup de mou à l'heure de jeu, ce qui est un petit peu normal parce que la débauche d'énergie était très impressionnante. Mmh. Et Paris n'a pas su en profiter, c'est un petit peu dommage. Et après, ils sont retombés dans leur travers. Et on sait que Paris... depuis de nombreuses années, dès qu'ils sont un petit peu dans le dur, dès qu'on va les chercher haut, dès qu'on va les presser, dès qu'on les lève de leur confort, dès qu'on les empêche d'avoir le ballon, c'est-à-dire que dès qu'il y a un ballon touché, bang, on est derrière eux, ben ça les perturbe et ça part dans tous les sens. Et c'est ce qui s'est passé. C'est dommage pour Paris.
Philippe, sur ce match, sur la prestation notamment de Dortmund, parce que c'est vrai que c'est les vainqueurs et que c'est eux qui ont impressionné hier soir.
Non, ils ont mis une intensité assez exceptionnelle, qui correspond évidemment à la qualité de leur jeu, correspond à un rythme assez courant en Bundesliga. Ça ne veut pas dire que le Paris Saint-Germain n'est pas capable de ça, mais c'est une équipe qui a, on l'a constaté plus d'une fois quand même, qui est passée au travers, elle est quand même passée au travers de 3 matchs de 8e de finale ces 3 dernières années, le PSG. Donc on sait que de temps à autre, et
alors
là, cette faiblesse,
alors
oui, en général, c'est le match retour, exactement. C'était le match retour qui était raté,
donc,
c'est vrai.
Donc peut-être que.
Mais donc là, ça peut être l'inverse. Mais bon, je qualifierais pas ce match dans la même lignée, mais indiscutablement, il y a eu un manque d'intensité. Il y a eu un Neymar qui n'était pas dans le rythme. Et quand Neymar n'est pas dans le rythme, ça change quand même énormément l'équipe.
On y viendra au cas Neymar.
Je navré de le rappeler. Et cette intensité, en tout cas, si on veut rester sur Dortmund, cette intensité, Dortmund l'a vraiment mis pendant une très très longue période du match et a cassé un peu les reins des Parisiens.
Mais c'est leur style de jeu de tout temps. C'est-à-dire, ils n'ont pas changé là pour juste pour le match.
Non, non. Par contre, ce qui a changé, je pense que c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure, David, c'est quand la qualité technique était avec. Mmh. C'est-à-dire qu'en plus de l'intensité, ça va
ils
toujours vite.
Ils ont haussé leur niveau.
En plus, la qualité technique était là, ils ont fait quelques pertes de balles un peu coupables, mais très peu par rapport à certains matchs de Bundesliga où de temps en temps ils se font vraiment bouger en contre parce qu'ils perdent des ballons à 30-40 mètres de leur but. Oui. Là, c'est pas du tout été le cas.
Et ils ont... Mais quand même, en début de match, surtout, ils ont beaucoup raté quand même. Et on se disait, on sait
devant
que
le but, oui,
dans les compétitions comme ça, des fois ça se représente pas souvent et qu'effectivement le score aurait pu être en plus, plus salé. Il a manqué parfois quand même une.
Clairement, et à ce moment-là, on était sur un schéma Dortmund a laissé passer sa chance. Voilà. Parce que face au Grand Paris, Dortmund n'y arrivera pas, etc. Non, le Grand Paris n'est pas arrivé. C'est Dortmund qui a donné le ton tout le match et qui a mérité sa victoire. Ils auraient pu gagner peut-être avec 2 buts d'avance. Enfin, en tout cas, le score paraît assez logique. Un but d'avance, c'est assez normal.
Alors, venons-en justement à la tactique choisie par les entraîneurs de ces deux équipes. Évidemment, on va donner une large victoire à Lucien Favre, ne serait-ce que par le style, par le jeu, l'intensité et le résultat. L'entraîneur du PSG, cependant, a fait un pari osé. Alors, je disais tout à l'heure, ça a commencé à défrayer la chronique même avant le coup d'envoi, puisqu'on a vu ce schéma choisi. Il a déclaré, à la fin du match, n'avoir aucun regret sur son choix. Et il a plutôt expliqué ceci au micro de Frédéric Suteau.
On manque un peu de confiance. J'ai la même impression. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est pas bien. On doit aider pour trouver des solutions. Et des solutions vont arriver si tout le monde est là. Mais on a un peu l'impression que... on a joué avec trop de peur de faire une petite erreur. Et si tu penses trop des erreurs arrivent.
Thomas Tuchel, donc, qui parle de cette peur, hein, qu'ils ont joué avec de la peur. Justement, Marc, alors on sait que beaucoup de ces joueurs ont participé aux campagnes récentes des huitièmes de finale. Je crois que c'est 7 joueurs de l'effectif qui ont vécu déjà ces éliminations un peu traumatisantes. Est-ce que ça peut expliquer ce que dit Thomas Tuchel, c'est-à-dire jouer avec une certaine peur?
Je ne sais pas si aujourd'hui on m'explique qu'en ayant Neymar, Mbappé, Di Maria, on doit avoir peur de Dortmund.
C'est la fameuse négativité de Leonardo.
Voilà, j'ai vraiment du mal à mais vraiment, je comprends pas, puisque moi j'ai eu la chance d'évoluer dans des effectifs où il y a de très grands joueurs. Quand ils étaient là, Annie, on pouvait voyager, on pouvait aller n'importe où. Là, on nous explique, donc depuis le tirage au sort décembre, mais c'est magnifique, c'est Dortmund. Oh, mais
oui,
quelle régalade.
C'était vu comme un bon tirage au sort.
Mais soyons dingues, c'est la folie.
C'était avant l'arrivée de...
Et là, lui, il nous dit, c'est-à-dire qu'il le prépare depuis bientôt 2 mois et demi, et là, il nous raconte, ah ben non, on avait un peu peur. T'as un peu peur? Mais je comprends pas très bien.
C'est lui qui avait peur? La défaite n'est pas seulement celle de l'entraîneur.
C'est tout un ensemble. Après, je voudrais juste poser une question à David et à Philippe qui sont là. Quel est pour vous, depuis le 1er janvier, le meilleur joueur du PSG? Et tous les auditeurs vont tout de suite savoir qui c'est. C'est qui? Le meilleur joueur du PSG depuis le 1er janvier.
Est-ce que c'est Sarabia?
Ok. David?
Oui, moi je continue de donner des bons points aux gardiens aussi. Non,
mais Navas, il est hors norme. Mais voilà, c'est très clair, c'est Sarabia. Sarabia, il est où au début du match?
Sur le banc.
Voilà. Donc à partir de là, on peut rien faire. C'est-à-dire que le plus gros match du PSG, ça a été le Real Madrid à l'aller. Les grandes stars ne sont pas là. On voit un groupe qui se met minable, qui se bat et qui s'arrache. Là, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ah non, Sarabia, il est sur le banc. Mais qu'est-ce que tu fais, Tuchel? Mais qu'est-ce que tu fais, Tuchel? Mais tu es un
peut-être
dingue.
Peut-être de contenir cette équipe. Pour l'emporter au retour.
Alors en ayant en ayant de tels joueurs, on va à Dortmund en disant je vais jouer petit bras, j'ai peur. Mais le propre des grandes équipes, j'ai joué dans des grandes équipes.
En tout cas, les choix de Tuchel laissent penser que la peur qu'il a évoquée à la fin, il l'a en partie propagée dans son équipe ses choix.
D'accord, mais quand tu es entraîneur, ton meilleur joueur, il s'appelle Sarabia, tu ne le laisses pas sur le banc. Tu ne fais pas partir, tu fais pas partir Cavani, mais je veux bien. Tu as Hummels, qui est un mec très costaud, mais Cavani, pour qu'il lui rentre dedans. Ils se sont régalés, trois mecs, Zagadou, qui est très costaud, mais il a tout fait à l'envers. Et si on nous explique qu'en plus il a peur, ah ben là, c'est le
Philippe.
Pompon.
Justement, on a eu l'impression que les joueurs, alors il a dit, hein, j'ai pris cette décision avec les joueurs, j'ai informé les joueurs évidemment hein, avant le match du schéma tactique, mais on a eu l'impression que les joueurs ils étaient peut-être un peu ou perdus ou frileux. Certains commentateurs disaient que Neymar passait son temps à aller parler avec Thiago Silva.
J'ai jamais vu un entraîneur qui dit je me suis concerté avec les joueurs. Non mais soyons sérieux, Annie, on fait une émission.
Lui il a dit mais.
La vérité en plus, Annie. Vous avez raison de le dire parce que en fait, je m'informe auprès de mon groupe de qui peut jouer. Donc c'est ton ami qui
s'en fout. Sans dire long sur les influences.
C'est pas possible.
Il a dit qu'il avait décidé de se.
Tu sais très bien qu'au PSG depuis 3-4-3, tu sais très bien qu'il y a des joueurs qui sont influents qui disent ah mais je préfère jouer avec lui.
Ça c'est vrai.
Mais où tu vas?
Les quatre fantastiques n'étaient pas là, Marc. En tout cas, entre guillemets,
c'est des fous. Ce sont des fous.
Qui aiment jouer ensemble.
Ce sont des fous.
Non, c'est très curieux qu'il ait pas été au bout de ce choix. Parce que je trouve rien que pour donner à l'adversaire la sensation que qu'ils maîtrisaient et qu'ils vont après et qu'ils vont faire leur match. Après, je peux comprendre je pense que Neymar est un peu court, donc il se dit bon, comme Neymar est court, je vais peut-être retirer un joueur offensif. OK. Mais ça ne justifie en rien le choix de jouer à 3 derrière que je comprends pas. Je trouve que c'est des mauvais signaux au-delà de pas comprendre parce que Tourelle est à l'entraînement tous les jours, et il connaît mieux l'équipe que moi, donc je peux tout à fait admettre tous ses choix. Il y a pas de problème. Mais je trouve que vis-à-vis de l'extérieur dont moi très important, mais notamment Dortmund, je trouve que Dortmund, quand ils lisent la compo, ils doivent se dire ah, c'est pas mal pour nous ça. Et c'est pas mal, ils vont jouer à 3 derrière, très bien.
Surtout, ils avaient joué à Dijon.
Pourquoi faire?
À Dijon.
Pourquoi faire?
Dijon.
Pardon, Annie. À l'inverse, juste pour mettre en perspective, à l'inverse de l'autre côté, Lucien Favre choisit de mettre les meilleurs du moment. C'est-à-dire que Mario Götze, qui est un formidable joueur, technicien, qui est le buteur de la Coupe du Monde 2014 en finale, etc., eh bien, il est cantonné au banc parce qu'aujourd'hui, il est moins bon qu'un jeune de 17 ans, que l'entraîneur fait au moins le choix de faire jouer dans le troisième tiers du match. Et l'opposition est assez flagrante, je trouve.
On a été surpris, c'est qu'à la mi-temps, il n'y ait pas d'autre choix de la part de l'entraîneur ou que aussi n'utilise qu'un des trois remplaçants.
Le premier changement est à la combien? Il y en a qu'un, 72e.
15e, oui, je crois, quelque chose comme ça. Mm-hmm.
Oui, non, ça fait partie du choix. Moi, je trouve que pour une équipe, je trouve que le signal qui est donné, le premier signal qui est donné, c'est de jouer à trois derrière. Ça ne paraît pas justifié. Le deuxième signal que vous risquez de donner, et c'est ce qui s'est passé malheureusement, c'est que vous risquez d'être dominé au milieu de terrain. Bah, être dominé au milieu de terrain, ça veut dire que vous perdez le contrôle et vous perdez l'essentiel de vos qualités.
L'essence d'un match de foot.
L'essence de vos qualités, elles sont devant. Si vous avez perdu le milieu, ça va être compliqué de marquer des buts, forcément. Bah alors,
justement, vous parlez de milieu de terrain. Le meilleur hier soir, c'était Marco Verratti. Marco Verratti, Marc, il prend un carton jaune pour contestation dans les derniers instants du match, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas jouer le match retour. Et Marco Thomas Meunier a lui aussi pris un carton jaune, il ne pourra pas jouer le match retour. Or, Thomas Meunier a eu en plus cette déclaration en disant « Je ne savais pas que j'étais sous le coup menacé d'une suspension pour le deuxième match, le match retour. »
Je pense que Thomas
Meunier... Pour accumulation
non,
de cartons jaunes.
Je pense que... j'espère que Thomas Meunier veut faire du mal au PSG en disant ça, parce que il est pas sérieux. Moi, j'ai commencé en 92 à jouer en pro jusqu'en 2005. Il y a un paperboard. Alors, je vous dis, il n'y a plus de paperboard, ça les fait rire quand on dit. Mais il y avait l'intendant nous racontait, Marco, tu prends un carton, t'es suspendu. Mais même mon dernier club au Gazélec d'Ajaccio, d'accord? En national, on avait l'intendant qui me rappelait les histoires. Et Thomas Meunier va sur le terrain. Avant le début du match. Non, mais il faut
Oui.
Non mais c'est pas possible. À Livingston en Écosse, première ligue, je l'ai vécu. À Hibernian, je l'ai vécu. Oh, il y a un paperboard, il fait 12 mètres. Il y a marqué Libra, be careful, fais attention mon garçon. Et là, Meunier, il rentre. Ah mais je le savais pas. Tu le savais pas? Mais qu'est-ce que tu fais à Paris mon garçon? Mais qu'est-ce qu'ils font pas? Je pense qu'il veut
Meunier,
faire.
Meunier, tu dors. Hein.
Ouais, non, mais elle est trop facile. J'ai pas osé la placer. Mais on marche sur la tête. C'est-à-dire que on nous explique qu'il y a pas de souci.
C'est pas possible. Que ça, non, mais que ça révèle.
Meunier, qui est un type vachement intelligent.
Mais
il a un côté un peu déconnecté. Il a
il
toujours
est excellent
des interviews.
Analyste en fin de match.
Oui, non, il est très bon. Il a des façons de s'exprimer assez originales. J'ose espérer que c'était
un
bon mot et un quelque chose d'original. J'ose l'espérer.
Une blague belge. Bon, Verratti, en tout cas, lui, il savait, mais il s'est encore exposé parce que il est coutumier du fait.
On a cherché
depuis qu'il est en Ligue 1 en 2012. Pierre Guérin a cherché ses 15 cartons jaunes quand même. Alors on n'a pas réussi à décoder.
Non, plus que ça. Beaucoup plus que ça.
Non, c'était 4 en saison 2016-2017.
Peut-être en Coupe d'Europe.
Oui.
En Coupe d'Europe.
Pardon.
Ça doit être ça, oui.
En Coupe d'Europe,
c'est probablement ça. En championnat, il prend tous les trois matchs.
En tout cas, à Madrid, il avait été exclu pour un deuxième carton jaune en 2018.
À Paris, contre Madrid.
Ouais.
Et pareil pour contestation. Ce sont des éternels problèmes. Ça, ouais.
Oui, personne
n'a théoriquement, jamais... on devrait être soigné quand on arrive à 26, 27 ans, comme c'est son cas.
Oui, parce qu'au début, on disait les jeunes et italiens.
Rien n'évolue. Rien, toujours pareil.
Il y a quand même quelque chose qui a évolué, c'est Neymar, il était là hier soir. Alors certes, il n'était pas en grande forme, mais ses propos en fin de match ont peut-être de quoi mettre le feu au club, je ne sais pas. En tout cas, de quoi mettre en colère certains dirigeants. Neymar qui a déclaré ceci en sortant du terrain.
C'était difficile de rester 4 matchs sans jouer, mais malheureusement, ça n'était pas mon choix. C'est un choix du club et des médecins. Ils ont pris cette décision et moi, je n'ai pas aimé. On a eu beaucoup de discussions autour de cela, car moi, je voulais jouer. Je me sentais bien, mais le club avait peur. Au final, c'est moi qui en souffre.
Est-ce que Neymar tente de se démarquer de la défaite, de ne pas être le seul responsable, lui qui a marqué le but des Parisiens, hein, rappelons-le, un très beau but allié à Kylian Mbappé, son grand complice, lui qui était si attendu après deux saisons totalement blanches. Est-ce que ça vous a surpris, vous, David Lortolari?
Cette sortie de sa part?
Après, je demanderai à Marc.
Il y a deux remarques qui s'entrechoquent un peu dans mon esprit. C'est quand on lit la presse allemande, il y a cette espèce de les yeux qui brillent quand on dit tous les clubs allemands, on lit souvent ça dans les médias en Allemagne, tous les clubs allemands aimeraient avoir Mbappé et Neymar dans leur effectif.
Peut-être pas qu'en Allemagne d'ailleurs.
Non, mais quand on a ce genre de réaction, je suis pas sûr. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose, en Allemagne,
on est relativisé depuis le match hier soir.
On est coutumier quand même là-bas.
Bon, le principal, ils ont envie de Mbappé parce qu'il y en a qu'un qui peut s'offrir ces deux joueurs.
Oui, ils ont envie, mais moi je suis pas sûr que ce soit un bon calcul. Bon, peu importe. Pas pour la gestion du groupe et le collectif et la deuxième chose, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. On est familier quand même en Allemagne, peut-être un peu plus qu'en France. On a la culture des phrases choc prononcées parfois juste après les matchs à chaud
dans la rage de la défaite.
On s'envoie quand même souvent quelques missiles à travers médias interposés dans les grands clubs, dans les clubs un peu moins en vue aussi. Donc ça, c'est pas forcément surprenant, mais on revient dans la logique de ce qu'on disait il y a quelques minutes là dans l'émission, cette espèce de parfum de peur. C'est lui qui a prononcé le mot de peur d'ailleurs à l'instant dans le son là.
Oui.
En disant le club avait peut-être peur. Ça c'est encore une fois un message qui est négatif pour le match retour, par rapport à l'ambiance qu'il peut y avoir générale dans ce club-là, c'est pas encore une fois un bon signal.
Philippe, on l'avait lu dans la presse d'ailleurs, avant le match très bizarre à Amiens en championnat au cours du week-end, là, ce match 4-4 où le PSG menait 3-0, on avait lu que, tiens, Neymar n'y est pas, il a été tenu à l'écart, mais par ailleurs, on savait qu'il aurait aimé y participer, peut-être pas tout le match, mais pour se remettre en jambes.
Bon, en tout cas, sa déclaration laisse penser qu'il a une certaine amertume. Mais le joueur, il sait s'il peut jouer ou pas, surtout pour ce qu'il avait. Ça aurait été un souci musculaire. On peut dire que le club a raison à ce moment-là de prendre des garanties, de ne pas prendre de risques. Là, pour le mal qu'il avait, là, c'est le joueur aurait.
Mais Philippe, c'est le traumatisme absences des deux dernières éditions.
Oui, mais là, c'est bénin. Enfin, c'est bénin. C'est une petite blessure. Il aurait pu jouer les deux derniers matchs. Je suis sûr qu'il pouvait jouer. Enfin, lui, dans son état d'esprit, qu'on prenne des précautions, je veux bien. Mais on prend à ce moment-là le risque que le joueur soit pas en jambes. Hier, je suis désolé, pendant une heure, Neymar est l'ombre de lui-même. Et c'est un handicap terrible pour le PSG. C'est le joueur créatif du PSG. C'est le joueur qui débloque toutes les situations. C'est le joueur qui fait tout. Donc moi je comprends. Enfin, je me demande si le PSG par moment n'est pas gagné par une ambiance très française. Attention, pas se blesser, ne pas se fatiguer. On fait plein de turnovers. Oui, ok, on fait plein de turnovers. Résultat, à Amiens, on fait n'importe quoi. L'équipe c'est une demi-équipe. Le match d'avant, je comprends pas très bien. J'avoue, je comprends pas tout.
C'est l'exemple encore
une
fois.
C'est pas du foot, quoi. Pour moi, c'est pas du foot. C'est pas ça.
C'est l'exemple. Marc. Philippe a raison. C'est encore une fois l'exemple que les grandes équipes comme le Borussia, le week-end dernier, mais son équipe type, ils calculent pas. Attends, on va se blesser. Attends, il faut faire attention à lui, à lui. Il faut du temps de jeu, il faut du rythme, il faut avoir du rythme, mais le rythme, il n'a pas. C'est bien sympa. Alors, entre-temps, il y a sa fameuse soirée où, 48 heures après, il y a un match. On dit, ah non, mais là, il est blessé à la côte parce qu'à Montpellier, il était. Bon, ok, très bien. Mais après, s'il a envie de jouer, il faut le faire jouer. Mais encore une fois, moi, je reviens sur la sortie. Elle est vraiment déplacée. Il ne peut pas se permettre de faire ça. Mais qui fait quoi et qui commande au
PSG?
C'est
la star du PSG.
Mais Non, mais entre la star du PSG ouvrir sa bouche pour dire ce genre de choses, à part nuire au PSG et les faire passer pour ce qu'ils sont pas, parce qu'en fait ils se dédouanent. Ah, ben moi j'ai marqué un but. Hein. Par contre, c'est à cause de si c'est ça. Ah bon, c'est mais je sais pas. Neymar.
Vous avez trouvé aussi qu'il était un peu.
Non, je sais pas. Non, je sais pas. Les maillots, non, je sais pas. Je sais pas du tout, mais c'est quand même pas normal de faire ce genre de sortie. C'est pas normal.
Mais en tout cas, ça met un climat très négatif pour l'entraîneur.
Mais tout est négatif dans ce genre de choses.
Pour l'entraîneur, ça met un climat très négatif parce qu'on a l'impression que finalement.
Qu'ils l'ont lâché.
Mais même les médecins, ils citent les médecins.
Oui, oui.
Ils citent les médecins, les médecins du club. Mais t'as aucun respect pour les médecins. Ils sont là du matin au soir. C'est de la kinothérapie. Ça ne s'arrête pas. Et tu dis, ouais, c'est le médecin du club. Oh, soyons sérieux quand même, un peu de respect pour tous les gens qui bossent à Paris depuis très longtemps. Ben là, il n'y a aucun respect. On crache sur le PSG et il n'en a rien à faire. Et il continue en plus. Ah, c'est pas possible. Et Leonardo, on va se rappeler que Leonardo était là pour tout changer. Tout changer. Plus de soirées, plus d'événements, plus de... Oh, ça va, la semaine dernière, Mbappé, il était plus préoccupé pour faire ses associations à droite à gauche. Mais vous savez qu'il y a une saison à jouer qui est très importante.
Bah, il était en Allemagne, Neymar, d'ailleurs, pour prendre une promotion.
Mais c'est toujours, c'est pas possible. C'est
Neymar
pas possible.
A tweeté au milieu de l'après-midi pour dire avoir la foi, être concentré et avoir confiance en nous.
Moi, j'ai mal au foie, là. Pense... c'est autre chose. Parce que j'ai vu
ils ont les foies, ils ont les foies.
Bon, il y a aussi cette histoire pas très reluisante du frère de
Trenel Kimpembe.
Qui hier, sur les réseaux sociaux, a insulté avec ses mots à lui.
Juste voir comment va gérer le PSG va gérer ce cas-là. Voilà,
on se souvient d'Aurier, mais bon. Bref, donc Paris garde toutes ses chances au retour au Parc des Princes.
C'est la bonne nouvelle de la soirée.
Voilà. Oui, 49,3% de chances de se qualifier en ayant perdu 2-1 à l'aller. En tout cas, pour ce qui est des matchs de Ligue des Champions, les statistiques, je ne sais pas, il y a 600 matchs ou je ne sais pas combien sur lesquels ça a été calculé. Bon, alors si les stars, évidemment, retrouvent leur souffle, leur complicité, et donc ça sera sans Meunier et sans Verratti. Un de nos auditeurs, alors vous savez que vous pouvez voter sur la page Facebook de l'émission, il y a un sondage. Qui croyez-vous qu'il se qualifiera? Mais en tout cas, il y a Fiston Fils qui nous écrit de Nancy et qui nous dit, donne un proverbe africain. La haine du poussin ne gêne pas l'épervier. Alors l'épervier, c'est Haaland, notre cyborg. Oui, oui, oui. Et il parle des fantaflops du Paris Saint-Germain. Donc on imagine pour qui il vote dans ce genre de sondage.
Valide.
Fiston Fils. Allez, on continue. Il y avait un autre match hier soir.
Ce ballon qui va monter dans la surface de réparation. Oh, renard des surfaces. L'un des leaders. L'âme de ce club de l'Atlético, Saúl Ñíguez. Ça démarre fort, ça démarre bien pour l'Atlético.
Des champions d'Europe en titre méconnaissable. Les joueurs de Liverpool, invaincus dans le championnat de Première Ligue, ont encore perdu en Coupe d'Europe et cette fois, je crois que c'est la troisième défaite et cette fois, eh bien, ils se sont heurtés au mur défensif des hommes de Diego Simeone sur la pelouse de Madrid. On connaît le style de l'Atlético. Battu 1-0 par cet Atlético, un but marqué pourtant dès la quatrième minute, mais le trio offensif des Reds est resté inoffensif. Klopp a même fait sortir les as de ce trio, à savoir Sadio Mané, très très énervé. Il a voulu lui éviter une exclusion. Il est sorti à la 46e minute et Mohamed Salah, lui, sorti à la 72e minute. Alors, il faut savoir dans les statistiques que depuis que Simeone est là-bas, entraîneur, je crois que c'est 2011, si je ne me trompe pas, à l'Atlético, eh bien, il n'a jamais perdu à domicile un match à élimination directe. Il y a eu 8 victoires et 4 matchs nuls. D'une équipe qu'on disait hier, ici, mais être, c'est vrai, en difficulté dans le championnat, qui est moins brillante, qui est quatrième seulement, qui est un peu loin du podium. Est-ce que ce point d'avance et ce but d'avance peut favoriser l'Atlético? Et cet Atlético, est-ce que les champions en titre sont en danger, selon vous, Philippe?
Oui, je pense que Liverpool est quand même en danger. On ne manœuvre pas l'Atlético comme ça. Bon, la Juve l'avait fait l'année dernière. Ils avaient remonté deux buts.
Un homme.
avec un Ronaldo effectivement extraterrestre, mais ils avaient deux buts d'avance. L'Atlético, ils n'avaient pas suivi, ils n'avaient pas tenu à Turin, ce qui veut dire qu'il ne faut pas en déduire. Ah ben, l'Atlético va nous la jouer derrière et autres. Dans le football d'aujourd'hui, c'est devenu très difficile de ne pas prendre de buts, de rester tous derrière, de patienter, etc. Ça existe encore, mais malheureusement, c'est devenu plus difficile qu'avant. Donc, il ne faut pas penser ça. Par contre, l'Atlético est armé, oui, pour embêter ce Liverpool qui est en Coupe d'Europe, n'est pas toujours le même. Hein. Il y a souvent des matchs à l'extérieur comme ça où ils sont relativement moyens. Ça a eu lieu encore dans la poule de qualification,
Naples,
ils ont eu beaucoup de mal à se qualifier. Ils sont sortis très difficilement de la qualification. Même à Salzbourg, c'était pas facile pour le dernier match qui était le match décisif.
Ils avaient pris beaucoup de buts.
Ça là, les avait un peu sortis de l'opération. L'an dernier, ils avaient perdu quand même leurs trois matchs de poule à l'extérieur.
Dont à Belgrade,
dont au Parc et à Naples également. Donc bon, ils sont parfois étonnamment plus abordables en Coupe d'Europe qu'en championnat où on sent une détermination absolument sans faille.
Marc,
ce qui est assez surprenant, c'est que la réussite qu'ils peuvent avoir en première ligue ou comme face à Norwich, où ils sont un peu dans le dur.
Ils
sont invaincus, mais il y a 5-6 matchs où ça doit pas passer, ça doit faire nul, ils doivent pas gagner, et puis bang, il se passe un petit truc, il y a une erreur du gardien, il y a un mauvais contrôle, il y a un corner direct. Et là, cette réussite, elle les fuit, et puis les Colchoneros, faut se les taper, quoi. C'est-à-dire qu'ils vous agressent, ils sont là, présents, ultra présents, c'est un bloc bien en place, qui évolue bien en place. Et franchement,
il y avait deux lignes de quatre. Hein.
Mais on le sait. Donc si on n'arrive pas à se mettre entre les lignes et on ne trouve pas la solution, ça devient très compliqué. Et après, on s'énerve vite parce que c'est vrai que Mané s'est énervé, mais c'est plutôt intelligent d'avoir sorti.
Mané
bon,
et Salah étaient pris pendant le match. Et c'est pour ça qu'il a voulu les préserver. En tout cas, on se souvient de la remontada quand même que c'était. Alors là, aux dépens du Barça l'année dernière. Cette équipe de Klopp, quand même, David Lortolari, en Première Ligue et en Ligue des Champions depuis trois saisons, c'est 52 à Anfield, 52 victoires, 14 nuls, 0 défaite. Depuis le début de la saison dernière, c'est 36 victoires, 5 nuls. Et ils ont gagné 25 fois avec au moins deux buts d'écart. Donc, est-ce que l'Atlético sera mouliné à Anfield?
Ah bah oui, ils ont quand même une marge. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le plan qui a été le scénario du match hier correspondait exactement à ce que l'Atlético avait voulu. On avait souhaité marquer un but rapidement, c'est ce qui s'est fait, et derrière on a fait de l'Atlético. À l'extérieur, et Philippe le disait entre les lignes à l'instant, à l'extérieur c'est forcément moins fiable, moins solide aussi. Donc l'avantage, il est quand même Atlético, parce que 1-0 c'est l'un des scores idéaux quand même à la maison. Ne pas prendre de but chez soi, il me semble que à ce stade de la compétition, en aller-retour, c'est essentiel, et c'est ce qui va peut-être coûter cher à Dortmund. D'ailleurs, après voilà, la marge n'est pas suffisante par rapport à ce que le Liverpool a montré. En Allemagne, on est très content de la présence de 4 entraîneurs allemands à ce stade de la compétition. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire encore.
Jürgen Klopp, Thomas Tuchel.
Puis les deux, Hansi Flick au Bayern, et puis le Nagelsmann avec Leipzig qui joue ce soir.
Exactement. Et ben justement, la transition est toute trouvée pour aller vers ces matchs de la soirée. Et donc Leipzig, le club allemand qui se rendra à Tottenham, à Londres, pour affronter Tottenham, vous vous en souvenez, le finaliste malheureux l'an dernier, une équipe qui était alors entraînée par Mauricio Pochettino, l'Argentin qui depuis est parti. En plus, cette équipe de Tottenham, énorme malchance, elle a deux absents de taille, à savoir Harry Kane, le buteur, blessé depuis plusieurs semaines déjà, et puis très récemment, la blessure de Son, le Coréen, qui lui non plus ne jouera pas ce soir. Écoutons José Mourinho évaluer son adversaire du soir, c'est-à-dire Leipzig.
Des clubs comme Barcelone ou le Real Madrid possèdent le pouvoir et l'image acquise au cours d'une incroyable histoire. Leipzig, lui, a le pouvoir que lui donne le fait de posséder une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Mais en tant que club émergent, il n'a pas l'histoire des grandes Europes, même s'il a le potentiel pour jouer les premiers rôles en Bundesliga. Certes, ils sont deuxièmes, mais à un seul point du leader, et ils se battent pour le titre, et je pense que ça en dit long sur leur valeur.
Est-ce que Tottenham est méfiant, Marc, une équipe qui, effectivement, avec l'absence de joueurs importants, alors on sait qu'il y a un Hugo Lloris qui est absolument
en feu actuellement.
En feu,
exactement.
Un grand qui est bien rempart, revenu. On va dire. Oui, bien revenu de sa blessure, et ça, c'est peut-être bon pour les Bleus. Mais est-ce qu'ils sont méfiants, Tottenham, là,
moi,
avec
je
José
Tottenham,
Mourinho?
Je me méfie, ouais. Parce que cette équipe-là, Timo Werner, qui moi j'apprécie vraiment, je trouve que c'est un joueur très intéressant. Mm-hmm. C'est une équipe qui calcule rien, à mon avis. David en parlera peut-être mieux que moi, mais en tout cas, chaque fois qu'on
c'est
les
le
voit jouer.
C'est allemand.
Non, mais c'est pas ça. C'est que voilà, c'est plaisant, ça joue, on calcule rien, et puis on y va. Et ils ont absolument rien à perdre. Mm-hmm. Je pense que Mourinho.
C'est la première fois que la
Leipzig
se hisse à ce niveau.
Exactement.
Hein.
Mais ça va être, je pense, ça peut être très difficile pour Tottenham, quoi qu'il arrive.
Mm-hmm. Justement, David, hein, c'est une grande première. Ouais. Alors, ils avaient déjà fait les phases de poule, mais là, ils se retrouvent en 8e de finale, donc match à élimination directe.
10 ans d'existence pour ce club-là, en gros, hein, et on n'a pas mesuré la limite encore, avec un entraîneur qui est inventif, mm-hmm. qui va souffrir quand même ce soir de l'absence pour suspension, pour carton jaune de Dayot Upamecano, le défenseur central français, qui pèse lourd cette absence, parce que c'est quand même l'homme autour duquel la défense, oui, en plus il est costaud, qui autour de lui ça se stabilise, et cette absence-là peut coûter peut-être un peu de sécurité au RB Leipzig. Mais Marc a raison, il n'y a pas de calcul, on joue jusqu'au bout, voire même au-delà dans les arrêts de jeu aussi pour arracher un résultat. C'est une philosophie très intéressante, et ils dépensent certes beaucoup d'énergie en Bundesliga, mais comme c'est l'équipe la plus jeune en moyenne d'âge, on peut supposer qu'ils en auront encore ce soir aussi pour cette compétition-là de l'énergie.
Philippe, on connaît quand même le magicien aussi, Mourinho, qui connaît bien quand même cette compétition qu'est la Ligue des Champions.
Oui, et puis il connaît par cœur ces matchs-là. Je veux dire, les clubs comme le style de Leipzig, ça lui va très très bien. parce que Leipzig va jouer, Leipzig va ouvrir, il dit bon, bah merde, oh, c'est embêtant, je suis dominé à Londres, oui, c'est embêtant, mais enfin je vais gagner 2-0 quand même. Et donc non, je pense que Mourinho est... Non, mais il a raison d'être de craindre, parce que de toute façon, son Tottenham s'est quand même pas mal redressé. Les résultats deviennent quand même corrects depuis un certain temps.
55% de victoires.
Ça va de mieux en mieux depuis que Lloris
est
rentré, parce qu'il n'avait pas de gardien.
Complètement.
Quand même. Quand il est arrivé, Gazzaniga, c'était catastrophique. Mmh. Et Lloris a fait un bien fou. Depuis, Tottenham prend beaucoup moins de buts, et ça va être précieux là dans cette compétition-là. Ce week-end, ils ont gagné 3-2, c'était un peu à la limite. Mais bon, là, dans cette compétition-là, ça va être précieux. Donc, je pense qu'il a... Il a évidemment, avec son Tottenham, il a les armes, même en l'absence de Kane et autres, il a les armes pour maîtriser.
C'est quoi ces armes? C'est Dele Alli quand même.
Oui, l'équipe est quand même.
Sissoko est pas là non plus.
L'équipe est quand même très complète. Il y a quand même.
Il y a aussi.
Il y a encore devant. Il y a encore Lucas.
Ndombele au milieu.
Il y a Dele Alli effectivement. Il y a Bergwijn, le Néerlandais qui est arrivé, qui a apporté tout de suite pas mal. Et puis il en a vraiment besoin compte tenu des absences.
Serge Aurier aussi, hein, qui dans cette équipe, Mourinho l'aligne pratiquement systématiquement.
Oui, tout le temps. Oui. Mm-hmm. Non, il a une équipe qui tient la route et qui va sûrement... Leipzig, je suis persuadé que Leipzig va faire un très bon match, et je suis persuadé que Tottenham va gagner.
Bon. À la fin, donc, c'est Mourinho qui gagne. Et puis, donc, l'autre match de la soirée, c'est l'Atalanta de Bergame. Alors, c'est pareil pour l'Atalanta de Bergame. Première aventure en Ligue des Champions. Et en plus, eh bien, on passe la phase de poule. On se souvient qu'ils avaient très, très mal commencé la période éliminatoire, hein, avec des défaites. Et puis, tout d'un coup, cette équipe de Bergame s'est redressée. Elle accueillera les Espagnols de Valence. Alors, c'est peut-être, Marc Lebras, c'est l'affiche à la fois la moins prestigieuse et peut-être la plus équilibrée.
Ouais, peut-être la plus équilibrée entre deux clubs que la plupart des gens ne connaissent pas forcément. Cette saison, l'Atalanta de Bergame, c'est quand même très intéressant quand on les voit jouer. Ils sont
quatrième en Italie.
Ouais,
hein,
ils sont capables de faire des sacrés
résultats.
Toujours
la meilleure attaque, non?
Ouais, ils sont toujours meilleure attaque. C'est une équipe, je crois que c'est plus un match sur lequel je vais me pencher ce soir, parce que je pense qu'on va pouvoir s'éclater, vraiment. C'est-à-dire que je vois pas à quel moment on peut se dire, bon, on va gérer, on peut se permettre de gérer. Les deux équipes, alors Valence a peut-être sur ce coin-là un petit peu plus d'expérience et sait faire, mais Bergame, je pense que ça va aller, ça va être très sympa, je pense.
On va écouter en tout cas l'entraîneur des Italiens, Gian Piero Gasparini, évoquer son groupe face à ce Valence.
Valence est une équipe de qualité. Il a gagné sur le terrain de l'Ajax. Il a gagné à Chelsea. C'est donc une équipe dangereuse en déplacement car elle possède des joueurs rapides et très adroits. De notre côté, nous sommes conscients qu'il faudra sortir un grand match et jeter les bases qui nous permettent d'aborder dans de bonnes conditions le match retour qui sera bien sûr décisif dans une ambiance hostile.
Alors, l'Atalanta. Atalanta, quel match imaginer? Alors, est-ce que tout à l'heure on parlait de Leipzig qui va faire du Leipzig? L'Atalanta, là, on connaît un jeu très offensif là aussi.
Qui fait rêver les Italiens. Hein,
exactement.
Vraiment.
Face à Valence qui est un collectif quand même qui se connaît bien.
Si on écoute les petites déclarations qui ont été faites côté italien à l'approche du match, c'est plutôt alléchant, avec l'idée qu'on va continuer à faire ce qu'on fait récemment qui apporte des succès, c'est-à-dire profiter du jeu, profiter du football. Alors ce sont des termes qui sont peut-être un peu théoriques, un peu génériques, mais moi ça me parle par rapport à ce que disait Philippe aussi, la meilleure attaque du moment en Italie. Que le résultat sera pas forcément correspondant à cet appel d'air, mais c'est intéressant de voir. On disait hors antenne avec Marc, c'est le match qu'on va peut-être regarder ce soir.
Ouais. Mais c'est
romantique quelque part, c'est sympathique aussi.
Mais c'est assez symbolique d'une époque où, on parlait tout à l'heure de l'Atlético, ça devient quand même très difficile pour les équipes qui ne font que défendre ou autre, ça n'existe quasiment plus en fait. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a plein d'équipes qui surprennent, et toutes ces équipes qui surprennent, bah, c'est des Ajax, c'est des Atalanta, c'est des Leipzig, c'est des équipes qui jouent.
Ce ne sont pas forcément les équipes qui prennent le titre à la fin, par contre.
Non.
Complètement.
Non,
mais, on est d'accord.
Normalement, elles ne devraient jamais avoir un titre, ces équipes-là. Oui. Elles ont des budgets 6 fois inférieurs aux champions. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils gagnent? Ils peuvent rien gagner. Et non, mais il faut dire les choses.
On ne peut plus rêver avec vous.
Mais non, mais on peut.
Je ne partirai pas en week-end avec vous.
Mais dans le football actuel, on ne peut plus rêver.
C'est vrai.
En France, le premier a 3 fois le budget du deuxième. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, c'est pareil dans tous les pays maintenant.
Mais alors justement,
un peu plus d'équilibre entre Bayern et Dortmund, mais bon.
Cette affiche fait que entre l'Atalanta et Valence, on aura de toute façon une de ces deux équipes qui sera en quart de finale. Est-ce que Philippe aussi ce côté romantique fait que ça fait du bien aussi des fois à la compétition? On se souvient très bien de l'Ajax, vous en parliez l'année dernière, qui nous enchantait tous. Alors cette année, malheureusement, ils sont en Ligue Europa, ils n'ont pas
eu de réussite, ils ont été éliminés justement par Valence.
Mais ils ont perdu aussi certains de leurs grands joueurs. Alors
ils auraient dû se qualifier, mais bon, la Valence est passée. Ouais. Non, mais bien sûr que ça fait beaucoup de bien. Je pense que l'UEFA, j'en discutais avec des responsables de l'UEFA l'an dernier, que tout le monde disait « Ah, l'UEFA doit être super embêté, l'Ajax élimine le Real, élimine la Juve ». Au contraire, ils étaient ravis. Ils étaient ravis parce que c'est une des très très rares démonstrations, malheureusement il n'y en a pas souvent, que c'est encore possible, avec un budget de 130 millions, quelque chose comme ça, comme l'Ajax, c'est encore possible parce qu'on a une qualité de jeu, qu'on est capable de former des joueurs, etc. C'est encore possible d'y arriver jusqu'en... Ils ont failli aller en finale à une minute près, ils étaient en finale l'an dernier. C'est une belle démonstration parce que si on regarde sinon le football de toutes les dernières années, à part le Porto de 2004... Et allez, admettons que le Liverpool de 2005 était une vraie surprise parce qu'il venait de nulle part. Sinon, vous n'avez plus aucune surprise, quasiment.
Les huit derniers, le carré des demi-finales, en général, c'est les mêmes.
Allez, Tottenham a été une demi-surprise l'an dernier parce que Tottenham, c'est comme Dortmund. C'est les clubs 11 et 12. Il y a 10 monstres qui ont des budgets, mais c'est pharaonique, c'est démentiel. Ouais. Il y a 2 clubs un petit peu intermédiaires et après, c'est à la cave. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans les 10 premiers, comment vous voulez gagner? Bon, l'Ajax a fait un petit peu rêver l'année dernière, tant mieux. J'espère que effectivement, l'Atalanta ou d'autres font un petit peu rêver sur cette saison-là.
Si on prend l'exemple de Tottenham la saison passée, c'est Lucas qui il se passe un truc. Voilà, c'est un joueur qui fait la différence à lui tout seul. Souvent,
c'est un miracle.
Non, mais on est d'accord. Mais c'est pour ça que ça va au bout, parce qu'autrement, ça ne doit pas passer.
Non, mais donc, sinon, ça va créer le miracle. Sinon, c'était l'Ajax. De toute façon, c'était une surprise. Il y avait une surprise de toute façon.
Mm-hmm. Donc c'était c'est pour ça que ces équipes à ce niveau-là. Bon, ben, si elle peut créer une surprise, mais c'est vrai qu'à l'arrivée, malheureusement, ce sont les très très gros qui sont là.
Bien sûr.
Les clubs allemands cette année, du coup, ils sont plus, enfin, on les voit plus, on va dire, David.
C'est peut-être la fin du pain noir en ce qui les concerne. On verra avec les résultats de ces huitièmes de finale, parce qu'il faut encore maintenant basculer au-delà.
Évidemment.
Mais effectivement, avec Bayern et quel est le quatrième? Quel est le troisième? Je sais plus.
Bayern, Leipzig et Dortmund.
Ce soir et Bayern dans une semaine et aussi en Europa League où il y en a 3 effectivement.
Ouais. Leverkusen encore.
Oui.
Il y a 3 équipes encore en Europa League.
Eintracht Francfort et Mönchengladbach.
Quel luxe.
C'est du 16e de finale aussi. Hein,
oui, c'est donc, du 16e de finale.
On est un tour de plus.
Et ce soir, on aimerait bien voir 6 clubs. Donc,
ce soir, pour la France. Ce soir, les 2 équipes sont à l'extérieur puisque je crois que ça joue à San Siro. Hein, c'est ça. Il me semble qu'on joue à Milan à 1 heure de voiture de Bergame.
Mm-hmm. Oui, parce qu'ils n'ont pas un stade aux normes.
Le stade n'est pas homologué. Ouais.
Voilà, pour ce qui est de la Ligue des Champions. Et du coup, on se déplace. Mais Matteo Cioffi, notre correspondant, nous a dit que ça mettait une ambiance absolument incroyable.
À San Siro.
Voilà, à San Siro. Complètement différent des deux habitués, des deux abonnés de cette enceinte qui est celle de San Siro à Milan. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup,
merci Annie,
messieurs.
Merci à tous.
Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission, qui a beaucoup souffert aujourd'hui. Et à Laurent Salerno qui était à la réalisation.
On n'en saura pas plus.
À demain. Demain.